Les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est midi à Bangui en Centrafrique et 11h en temps universel. La Chine accueille aujourd'hui des dirigeants de 53 pays africains pour un sommet célébrant la coopération économique entre le géant asiatique et le continent. Durant deux jours, le 7e forum sur la coopération sino-africaine réunit dans la capitale chinoise de nombreux chefs d'État et de gouvernement, parmi eux l'Ivoirien Alassane Ouattara, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa ou encore le Congolais Denis Sassou Nguesso. Le sommet est l'occasion pour le président chinois Xi Jinping de célébrer ses nouvelles routes de la soie. Lancée en 2013, cette initiative vise à développer la connectivité commerciale de la Chine avec le reste du monde et à sécuriser ses approvisionnements. L'ex-Swaziland est le seul pays manquant à l'appel. Dernier allié en Afrique du Taïwan, île rivale du régime chinois, la monarchie d'Afrique australe n'a pas été conviée à l'événement. Une émeute dans une prison libyenne a donné lieu à l'évasion de plusieurs centaines de détenus. L'incident s'est produit au sud de Tripoli où se déroulent de violents combats depuis une semaine. Gabi Dorcel.
La police judiciaire de la capitale libyenne précise dans un communiqué que le nombre d'évadés se situe autour de 400 et que les geôliers n'ont pas cherché à bloquer leur fuite afin de ne pas envenimer la situation. Les gardes voulaient épargner la vie des prisonniers, a déclaré la police. Selon la FP, la plupart des prisonniers sont soit de droit commun, soit d'anciens partisans du régime de Muammar Kadhafi qui ont été condamnés notamment pour meurtre au moment de la rébellion de 2011. Des milices rivales s'affrontent depuis une semaine près de la prison d'Aïn Zara, théâtre de l'émeute de dimanche. Au moins 40 personnes, en majorité des civils, ont trouvé la mort et plus de 100 ont été blessés dans ces combats, a indiqué le ministère libyen de la Santé. L'intensité des combats à Tripoli, accentuée ce week-end par des tirs de plusieurs dizaines de roquettes, a contraint le gouvernement d'Union nationale, reconnu par la communauté internationale, à décréter l'état d'urgence dans la capitale libyenne et ses environs.
Une mission archéologique franco-égyptienne a mis au jour en Égypte l'un des plus anciens villages connus au monde qui remonte à l'ère néolithique. Les archéologues ont découvert plusieurs silos de stockage contenant de grandes quantités de restes végétaux et animaliers ainsi que des poteries et des instruments en pierre, a déclaré dimanche le ministère égyptien des Antiquités. Ces fouilles laissent penser que des hommes habitaient tel Al-Samara dans la province septentrionale d'El-Dakilia dès le 5e millénaire avant Jésus-Christ, soit longtemps avant la construction de la plus ancienne pyramide, a précisé le ministère. En République centrafricaine, de nombreuses réactions ont été enregistrées après les rencontres organisées séparément par l'Union africaine et Moscou avec des groupes armés du pays. Fin août, à l'initiative de l'Union africaine, 14 groupes armés ont harmonisé leurs revendications dans un document unique. Dans la foulée à Khartoum, au Soudan, la Russie a obtenu une entente entre 4 mouvements armés centrafricains. À Bangui, nous retrouvons notre correspondant Freeman Sipila.
Les deux rencontres, organisées distinctement fin août par l'Union africaine et Moscou, ont chacune produit des résultats jugés positifs. À voir dans le nord-ouest centrafricain, avec l'initiative de l'Union africaine, les 14 groupes armés du pays ont harmonisé leurs revendications dans un document unique. Béranger Ludovic Lamaka, porte-parole du mouvement anti-Balaka.
Nous étions tous à voir, les 14 groupes armés, et je peux vous dire aujourd'hui devant Dieu et devant les hommes que c'est un succès. Mes frères qui ont pris les armes hier, aujourd'hui ils ont compris. Et aujourd'hui, ils ont dit rien que la paix.
À Khartoum, au Soudan, des responsables de 4 principaux groupes armés centrafricains se sont mis d'accord pour pacifier le pays. Ils ont, avec l'appui de la Russie et du Soudan, mis en place une plateforme dénommée Rassemblement Centrafricain, en abrégé RCA. Abdoulaye Hissène, chef militaire du FPRC, Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique, l'aile dure de l'ex-Séléka.
On n'a pas trouvé cette occasion depuis longtemps. Ça fait 5 ans qu'on attendait cette occasion. La République soudanaise nous a accepté de venir s'asseoir et discuter et trouver un compromis ensemble entre nos groupes politico-militaires centrafricains. Si vous voyez un Tibalaka, c'est le cas, c'est quand même historique.
À Bangui, la capitale, les réactions divergent. Certains centrafricains voient en ces rencontres une solution de sortie de crise. D'autres, cependant, doutent de la sincérité des groupes armés.
Nous pouvons dire que c'est une bonne initiative dans le cas où ça va donner une réaction positive dans le développement socio-économique des Centrafricains.
Le gros problème, c'est la paix. Tout ce qu'ils ont fait là, c'est pour la paix en République Centrafricaine.
Moi, j'accepte qu'ils ne changent pas d'avis.
La signature d'un pacte n'est pas seulement le papier. C'est la pratique qui va nous permettre de juger mieux dans l'avenir.
La société civile salue ces initiatives en faveur de la paix, mais attend des actes concrets de la part de ces groupes armés. Gervais Lacosso, coordonnateur du groupe de travail de la société civile.
À mon avis, la balle est plutôt dans le camp des groupes armés. C'est signe de bonne foi qu'ils montrent. Il faut que ça soit réellement sincère. Nous, ce n'est pas les déclarations, tout ce qui est signé, c'est pas ça qui compte. C'est les actes sur le terrain, c'est le comportement sur le terrain qui va nous démontrer que effectivement nos compatriotes ont pris conscience que ces frères qui sont venus des autres pays africains qui ont alimenté cette crise ont pris conscience qu'il faut arrêter pour aller aux négociations.
Ces deux rencontres devront faciliter la tenue prochaine d'un dialogue en préparation par l'Union africaine entre le gouvernement et les groupes armés. Freeman Sipila pour VOA Afrique, Bangui.
Le Pentagone examine, selon un article de presse, les moyens de retirer presque tous les commandos américains du Niger et de mettre fin à la mission de la plupart des unités d'élite de lutte antiterroriste à travers l'Afrique. Selon le New York Times, citant le Pentagone, des postes militaires au Cameroun, au Kenya, en Libye et en Tunisie seraient aussi fermés si le secrétaire à la Défense, Jim Mattis, approuvait ce projet. Mais les États-Unis continueraient d'avoir une présence militaire importante au Nigeria et en Somalie. Le Pakistan a qualifié d'incorrectes les informations selon lesquelles les États-Unis ont annulé une aide militaire de 300 millions de dollars à Islamabad, disant que Washington lui doit cet argent pour des dépenses liées à la lutte contre le terrorisme. Le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Shah Mahmood, a fait ses déclarations 24 heures après que le Pentagone a révélé avoir décidé d'annuler cette aide parce que le Pakistan n'en faisait pas assez contre les groupes terroristes dans ce pays.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le chef de la diplomatie iranienne est arrivé lundi matin à Damas pour des discussions avec les autorités sur l'offensive qui semble se préparer avec le soutien de l'Iran contre le dernier grand bastion rebelle dans le nord-ouest de la Syrie. Les autorités de Damas amassent depuis plusieurs semaines des renforts aux abords de la province d'Idlib, dernier grand bastion insurgé dans le nord-ouest de la Syrie. La visite de M. Zarif, qui n'avait pas été annoncée, survient alors que Téhéran doit accueillir vendredi un sommet réunissant le président iranien Hassan Rouhani et ses homologues russes Vladimir Poutine et Turc Recep Tayyip Erdogan consacré à la situation en Syrie. Le président yéménite Abd Rabbu Mansour Hadi, dont le pays est en guerre, va subir des examens médicaux aux États-Unis, a annoncé aujourd'hui un ministre yéménite. M. Hadi doit assister par ailleurs à l'Assemblée générale de l'ONU qui s'ouvre le 18 septembre. Le gouvernement de M. Hadi est reconnu par la communauté internationale. Il est en guerre avec les rebelles houthis soutenus par l'Iran qui ont pris le pouvoir lors d'un coup de force. C'était en 2014. L'Arabie saoudite a réuni une coalition qui intervient militairement depuis 2015 au Yémen en soutien au gouvernement de M. Hadi. L'ONU a invité les belligérants yéménites à des consultations de paix et ce sera jeudi prochain à Genève. Deux reporters de Reuters accusés d'atteinte au secret d'État pour avoir enquêté sur un massacre de musulmans Rohingyas par l'armée en Birmanie, ont été condamnés aujourd'hui à 7 ans de prison au terme d'un procès qui a entaché un peu plus l'image de la prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi. Wallon, âgé de 32 ans et qui a au COO 28 ans en détention préventive depuis décembre 2017, risquait une peine de 14 ans de prison au terme de ce procès très controversé dans un pays où l'indépendance de la justice est sujette à caution. L'ancien ministre des Affaires étrangères britannique Boris Johnson a dénoncé une fois de plus les propositions de Theresa May pour le Brexit, estimant que Bruxelles sortira victorieuse des négociations avec Londres. Boris Johnson, avec laquelle apporte du gouvernement dans la foulée du ministre du Brexit, David Davis, en désaccord avec le plan proposé par Theresa May qui prévoit le maintien d'une relation commerciale étroite avec le Royaume-Uni après le Brexit. Et puis la dépouille du sénateur John McCain a été inhumée dimanche à l'Académie navale d'Annapolis dans le Maryland au terme d'une semaine d'hommage national pour le vétéran de la politique américaine. John McCain est décédé le 25 août à l'âge de 81 ans. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francisque. Bon après-midi à tous et bon début de semaine.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.